19. Ok, bonjour, je m'appelle Ray, un des pasteurs ici. Si vous êtes ici ou bien dans l'auditorium ou bien en ligne, ce matin nous avons le privilège de faire la dédicace des enfants et je vais inviter ici Guéry avec leur fils Ézéchiel et j'invite toutes ces familles avec Kingsley Rose, avec ses parents. C'est un moment spécial pour eux, en tant que famille, aussi pour nous, comme la famille. Et ça a l'air que Dieu est en train de faire son travail, pas seulement faire leur don des enfants, mais beaucoup d'autres. Et ça, c'est merveilleux. Alors, Gary et Carmen, Victor et Diani, James et Connie, alors que nous faisons la dédicace, nous reconnaissons devant Dieu que les enfants sont un don du Père, un héritage de lui. C'est ce que le psaume 1 dit, que nous reconnaissons aussi que les enfants sont importants au Jésus. Matthieu, on parle de Jésus, comment les disciples avaient empêché les enfants d'aller vers lui. Et il a dit, laissez les enfants venir vers moi. Et nous voulons être comme Jésus dans notre famille ici. Vous avez nommé votre enfant Ézéchiel, qui veut dire la force ou la force de Dieu. C'est un Dieu merveilleux. Samantha veut dire, Dieu a et entendu. Une autre fois, la fleur de Dieu. Kingsley Rose. Il y a un thème de fleurs aujourd'hui. C'est merveilleux. Que vos enfants puissent grandir dans la faveur de Dieu, qu'ils viennent à connaître Dieu comme leur force, qu'ils sachent que leur vie est remplie de beauté, qu'ils viennent à connaître Jésus comme leur sauveur à leur jeune âge et qu'ils reçoivent de Dieu, qu'ils puissent être porteur de la grâce, de la sagesse, de la force, de la beauté, alors qu'ils marchent avec les autres. C'est ça notre prière pour eux. Alors vous, en tant que parents, et nous, en tant que famille, nous engageons à marcher avec vous pour conduire les enfants dans la manière de Dieu. Deutéronome dit, notre Père, il est seul. Vous devez aimer votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre force. Et ces paroles que je vous recommande aujourd'hui doivent être dans vos cœurs. Vous allez les enseigner avec diligence et vous devez, quand vous allez vous être à la maison, alors que vous marchez, alors que vous vous asseyez, alors que vous vous levez, tout le long de la vie, de la journée, la meilleure façon de faire le discipleur envers nos enfants, c'est nous devons d'abord être dans cette même voie, aimer Dieu. Cela est vrai pour nous. Alors, les enfants sont attirés vers cette vie qu'il y a en nous, cette réalité, l'amour de Dieu. Alors que vous dé faites la dédier vos enfants à Dieu, c'est une demande d'aide envers Dieu. Alors, engagez-vous tous. Avec l'aide de Dieu, le partenariat de l'Église, engagez-vous à avoir une vie chrétienne, de conduire vos enfants de la manière de Dieu et de les encourager à ce qu'un jour qu'ils puissent reconnaître Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Engagez-vous à faire cela. Laissez-moi prier pour vous et vos enfants. Père, nous sommes si reconnaissant pour le don d'Ézéchiel, de Samantha et Kingsley Rose. Je prie, Seigneur, que ta paix puisse demeurer sur toute famille ici présente. Les pères, les mères marchent en reflétant ton image, Père, aux enfants. Qu'ils puissent marcher dans ta sagesse, sous la puissance du Saint-Esprit, en conduisant les enfants dans selon tes voies, et nous, qu'en tant qu'Église, nous soyons fidèles d'aimer Ézéchiel, Samantha, Kingsley Rose et leurs parents, et de le conduire dans tes voies. Attire-les à toi par ton esprit, Jésus, qu'ils puissent avoir la joie de te connaître, Père, qu'ils puissent avoir la joie de se soumettre à toi, Jésus, qu'ils puissent te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Je prie ta bénédiction, Seigneur, de nombre 6 sur Aaron. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Que Dieu fasse luire sa face sur vous et qu'il puisse vous accorder la grâce. Que Dieu puisse donner la paix au nom de Jésus. Amen. OK. Je crois qu'il y a beaucoup qui se passe ici alors que j'étais en train de prier. Ma prière, c'est que vous soyez une foule facile, que vous ne marchiez pas tout autour en faisant d'autres choses alors que nous passons nous prêchons aujourd'hui. Nous continuons notre série et le titre d'aujourd'hui, c'est Le chemin vers la victoire spirituelle, 1 Corinthiens 10, 1 à 13. Vous pouvez ouvrir vos Bibles à ce passage ou votre téléphone avec la Bible. On peut se lever alors que le pasteur Brody va lire pour nous. Et frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils sont tous passés au travers de la mer et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée, dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas des mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils s'élevèrent pour se divertir. Ne nous livrons pas à la débauche comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par le serpent. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait était humaine et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Merci, Pasteur Brody. Je veux prier. Père, tu es si merveilleux. Tu as préservé ta parole pour nous. Et ceci est d'une certaine façon un texte qui est rempli des histoires et de significations. Alors, nous demandons que par ton esprit, Saint-Esprit, que tu disposes nos esprits à comprendre ta parole et que nous puissions savoir aussi comment mettre cela en pratique dans nos vies. Je prie pour ta grâce sur chacun d'entre nous au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, le dernier verset que le pasteur Brody a lu, le verset 13, parle de la tentation. Comment devrions-nous définir la tentation? La tentation, c'est l'acte d'inciter, d'attirer, de séduire ou d'attirer une personne à faire quelque chose mal ou mauvais. C'est une incitation qui fait appel à nos convoitises, à nos désirs. Est-ce quelqu'un ici a déjà été tenté de faire une mauvaise chose? Vous pouvez lever votre main. Il y a quelques hypocrites qui ne lèvent pas leurs mains. Que Dieu puisse vous faire miséricorde. Alors, tous avons déjà été tentés de faire le mal, de pécher. Personne ne peut dire qu'il n'a jamais été tenté. ou tenter de pécher. Qu'est-ce qui rend qu'est-ce qui rendait ces péchés à la recherche du statut le... à propos de ces choses, les murmures, l'immoralité qui semblent si irrésistibles pour les Corinthiens ou pour nous? Est-il même possible de résister à une tentation qui nous accable et de vaincre? Est-ce possible? Aujourd'hui, nous parlerons de notre expérience spirituelle, notre lutte spirituelle et notre victoire spirituelle. Notre expérience spirituelle, pourquoi devrions-nous faire confiance à Dieu? Et la victoire spirituelle qui est basée sur notre confiance en Jésus. La confiance fait partie et le soubassement de cette conversation. Premièrement, verset 1, car je ne veux pas que vous ignorez, frères, que nos pères, le mot car relit notre passage au chapitre 9. Dans le chapitre 9, Paul se présente comme un exemple de quelqu'un qui renonce à ses droits personnels. Renonce à ses droits personnels afin qu'un maximum de personnes de toute nation, de toute tribu, de toute langue viennent à la foi en Christ. Verset 9. Paul court pour gagner, il court pour la couronne impérissable, mettant de côté tout ce qui pouvait le gêner dans cette course. La dernière chose qu'il souhaite, c'est d'être disqualifié, c'est de n'être disqualifié dans cette course vers l'éternité. Chapitre 10, Paul passe de son exemple personnel à l'exemple des Israélites dans l'Ancien Testament. Il veut que les chrétiens de Corinthe prennent conscience de toutes les implications de l'histoire israélite. Pourquoi ont-ils été disqualifiés de leur course? Remarquez ceci, Paul écrit nos pères, il écrit cela à l'église de Corinthe. Il suppose une continuité entre le peuple d'Israël de l'Ancien Testament et, le peuple du Nouveau Testament à l'Église. Les disciples de Jésus, tant juifs que païens, sont des membres à part entière de la famille des dieux, des héritiers à part entière de l'histoire biblique. Verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Alors, le mot exemple et le mot grec typos. Ces mots, de ce mot, nous obtenons notre mot français type. Un type est un exemple spécial, un symbole, une image que Dieu a conçue et placée dans l'histoire à un moment antérieur afin de pointer vers un accomplissement ultérieur ou plus large. Par exemple, le sacrifice d'animaux dans l'Ancien Testament était le type de sacrifice final de Jésus-Christ. Alors, il y a un modèle ou une correspondance à observer. L'archétype ou le type est une ébauche. Un croquis, une préfiguration de ce qui doit venir. Les promesses, les symboles, les événements consignés à l'histoire et on va en Romains 15, 4, car tout ce qui a été écrit l'a été pour nous, pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Alors, il y a cet avertissement et pour que nous puissions avoir l'espérance. Dans ces cas spécifiques, dans 1 Corinthiens 10, l'expérience des Israélites de l'Ancien Testament est un exemple, un type pour l'instruction des Corinthiens et pour nous. Nous, le peuple de Dieu du Nouveau Testament, l'Église, sommes le peuple à qui les fins des siècles sont parvenues. Nous vivons dans les derniers moments de l'histoire. C'est ce que le Nouveau Testament dit. Nous vivons l'ère entre la première venue de Jésus, il y a 2000 ans, et sa seconde venue. Les Écritures parlaient que Jésus ralentissait sa venue afin que les gens soient sauvés. Mais Randy, c'était pour avoir son permis de conduire. Alors, le mot instruction, alors Paul commence par l'expérience spirituelle des Israélites, remarquez l'insistance sur tous dans les quatre premiers versets. Car je ne veux pas que vous ignoriez, frères et sœurs, que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous été au travers de la mer, et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, et ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ces rochers étaient Christ. Ils ont tous expérimenté les mêmes bénédictions spirituelles. Développons cela, restez avec moi, tous sous la nuée. Sous la guidance et la protection de Dieu, la nuée les a tous conduits hors d'Égypte, puis est passée derrière eux, les séparant des Égyptiens, les protégeant contre les Égyptiens. Tous passèrent au travers la mer lors de leur délivrance d'Égypte. Tout le peuple d'Israël traversa la mer Rouge sur la terre sèche avec des eaux formant des murailles des eaux de deux côtés. Tous furent baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Tous furent identifiés à Moïse et ont été séparés de l'Égypte. Moïse était un type de Christ guidant le peuple israélite à leur liberté. Restez avec moi. Tous mangèrent la même nourriture spirituelle, Dieu pourvu surnaturellement au pain du ciel pour leur peuple dans le désert. Tous burent le même breuvage spirituel, Dieu pourvu surnaturellement à l'eau du rocher. La nourriture et la boisson étaient la preuve que Dieu pourvoirait pour eux surnaturellement à travers leur voyage dans le désert. Qu'est-ce que Paul veut dire? Ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. C'est intéressant quand on lit à travers l'histoire. Le rocher apparaît au début et à la fin des errances d'Israël dans le désert. Assurément, Dieu a fourni de l'eau plus de 2 fois pendant leurs 40 ans de voyage. Certains rabbins juifs affirmaient que le rocher physique suivait les Israélites tout au long de leur errance dans le désert. Paul ne croit pas qu'un rocher physique voyageait avec les Israélites, mais que le rocher qui suivait le peuple était spirituel. C'était Jésus-Christ, constamment présent avec eux, pourvoyant à leurs besoins et les soutenant. Paul présente le peuple d'Israël comme un exemple, un type pour les chrétiens corinthiens et pour nous. Quels sont les parallèles entre leur expérience spirituelle et celle des chrétiens de Corinthe ou la nôtre? Suivez l'Ancien Testament et l'Église Nouvelle. On va faire une des comparaisons. Juste comme les peuples, la nuée de la présence de Dieu les a guidés, de la même façon, la présence du Saint-Esprit. Juste comme le baptême du peuple d'Israël marque le début de leur voyage, de la même façon, le baptême en Christ marque le début du commencement de leur alliance avec Dieu. De la même façon, le baptême identifiait le peuple à Moïse. Quand ils ont traversé la mer, de la même façon, le baptême identifie les disciples à Christ. De la même façon que le baptême dans la mer séparait de l'Égypte, de la même façon, le baptême en Christ sépare les chrétiens du monde. De la même façon que la délivrance de l'esclavage en Égypte, de la même façon, la délivrance de l'esclavage du péché et du diable. De la même façon qu'ils ont été libérés pour vivre une nouvelle vie, de la même façon la liberté de vivre une nouvelle vie en Christ. De la même façon que la nourriture et la boisson spirituelle qu'ils ont eue dans le désert, de la même façon le pain et la coupe est partagé au moment de la Sainte Cène, juste comme le rocher spirituel les suivait pendant leur voyage dans le désert, de la même façon le Christ ressuscité est constamment présent avec nous, son peuple, pourvoyant pour nous tout le long de notre chemin. Toutes ces choses étaient vraies pour eux et le sont aussi pour nous, disciples de Jésus. Verset 5. Cependant, la plupart d'entre eux ne furent point agréés de Dieu, puisque ils périrent dans le désert, même s'ils avaient entendu la parole de Dieu et ils avaient été témoins de ses œuvres miraculeuses, ils ont été renversés. Cela veut dire, c'est une image, le mot décrit un ouragan qui aplatit tout. Malgré leur expérience de la délivrance et de la provision miraculeuse de Dieu, leurs corps furent dispersés dans le désert. Mais la question est celle-ci, pourquoi? Quelle fut la cause de l'échec d'Israël? Or, ça serait la même chose pour nous aussi qui avons reçu beaucoup de choses de Dieu. Alors Paul continue au verset 6, il dit ceci, « Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. » Pourquoi? Afin que nous ne désirions pas des mauvaises choses comme ils l'ont fait. Désirer ici signifie convoiter ou avoir des désirs ardents. Il y a un avertissement au verset 6, général suivi de quatre exemples spécifiques qui illustrent la lutte spirituelle. Il y a l'idolâtrie, l'immoralité sexuelle, et puis il y a mettre Christ à l'épreuve, et puis les murmures. Qu'est convoité les Israélites? Verset 7. Ne soyez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. C'est une citation d'Exode 32, 6. Que se passe-t-il dans ce passage? Moïse est sur le mont Sinaï en train de recevoir la parole de Dieu pour le peuple. Alors qu'il s'attarde, le peuple s'impatiente. Ils veulent un Dieu qu'ils peuvent voir et manipuler à leur propre fin. Voyez-vous l'idolâtrie en son cœur et notre tentative humaine de gérer les domaines spirituels et d'utiliser les dieux pour nos propres désirs et nos desseins. Nous ne voulons pas nous soumettre à un Dieu souverain qui règne sur nous. Nous voulons faire en sorte que le domaine spirituel travaille pour nous. Après avoir été délivré d'Égypte par Jésus, c'est ce que dit Jude 5, les Israélites se tournent pour adorer un Dieu païen créé de leurs propres yeux. Ils fondent leur or et le forment en un veau d'or, lui font des sacrifices et commettent leur propre rébellion. Notre propre rébellion. Plus tard, dans le chapitre 10, Paul avancera que le fait aux Corinthiens de prendre des repas dans les salles de banquet des temples à Corinthe équivaut à participer à la tente des démons. Faire la même chose que le peuple, comme ils ont fait dans le désert. C'est une idolâtrie pure et simple. C'est pourquoi Paul écrit aux Corinthiens, « Ne soyez point idolâtres, cela porte sens. » Verset 8. « Ne commettons point d'impudicité comme quelques-uns d'entre eux en commirent, de sorte qu'il tomba 23 000 en un seul jour. » Dans Nombre 25, les Israélites tombent dans le péché sexuel. Les hommes d'Israël ont des relations sexuelles illicites avec des femmes de Moab, puis sont invités à sacrifier à leurs idoles et à participer à manger à d'offrandes sacrificielles. Ce fut leur dernière rébellion nationale pendant le voyage dans le désert. Leurs actions provoquèrent la colère des dieux. Ils furent jugés et punis. Là encore, c'est une parole d'avertissement pour l'église de Corinthe. D'après ce que Paul écrit dans les chapitres 5 à 7, quand on a étudié ces chapitres, on a vu que les Corinthiens, l'église de Corinthe, tolérait et s'est livrée à des activités sexuelles illicites, l'idolâtrie et l'immoralité. Encore une fois, Paul est en train de dire « Faites attention ». Vous trouverez qu'à travers l'histoire, l'idolâtrie et l'immoralité sexuelle vont de pair à travers l'histoire. Verset 9, « Ne tentons point le Seigneur comme les tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par le serpent. » Là encore, Paul voit Christ comme étant spirituellement présent avec les Israélites dans le désert pour pouvoir à tous leurs besoins. Mais dans Nombre, les Israélites deviennent impatients face au timing de Christ. Ils ne font pas confiance à Christ pour fournir de l'eau, de la nourriture. Ils exigent une provision maintenant. Encore une fois, le désastre frappe alors qu'ils tombent sous le jugement. Verset 10, « Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux et qui périrent par l'exterminateur. » Les Israélites murmurent dans Nombre. Cette plainte caractérise toute expérience du désert d'Israël, toujours à murmurer contre Dieu, une fois de plus, ils murmurent tout le temps en train de murmurer. Encore une autre fois, le Seigneur exécute un... Qu'y a-t-il de si mal à murmurer lorsque nous murmurons, nous murmurer à propos de l'Église? Ce matin, j'ai murmuré, même demandé à Dieu, pourquoi ne m'as-tu pas donné une voix comme Pasteur Jerry? Que se passe-t-il quand on murmure? Nous nous plaçons, nous nous établissons comme juges à la place de Dieu, au lieu... Et nous pensons que nous sommes, nous nous sommes. Et si quelqu'un te demande pourquoi tu murmures, on donnera la bonne raison. Nous pensons que nous sommes justifiés. Et lorsque ces chants d'insatisfaction commencent à jouer dans nos cœurs, nous devons nous demander, allons-nous adorer, prier et attendre? Allons-nous nous soumettre à la volonté de Dieu, à sa manière et à son temps? Ou allons-nous douter, murmurer et suivre notre propre chemin? Voyez-vous, la génération israélite dans le désert a expérimenté la délivrance miraculeuse de Dieu de l'Égypte et sa provision surnaturelle de nourriture et d'eau. Mais elle n'a pas atteint sa destination. Ils ont échoué à courir pour le prix. Seuls quelques-uns sont entrés dans la terre promise, deux d'entre eux, Josué et Caleb. Les autres sont tombés dans l'incrédulité et la désobéissance. Et c'est quoi le cœur de tout ça? Quand on commet l'idolâtrie, qu'est-ce qu'on dit? Je ne fais pas confiance, Jésus, pour me conduire. Je ne te fais pas confiance. Je dois regarder une autre source pour le leader, pour être l'idée. L'immoralité sexuelle, je ne te fais pas confiance pour me satisfaire, Jésus. Tester Christ... Mettre Christ à l'épreuve, je ne te fais pas confiance à ton temps. Murmurer, je ne te fais pas confiance pour pourvoir à mes besoins, Jésus. La fondation de tout ça, c'est le péché de ne pas faire confiance à Dieu. Quel est l'avertissement ici? Si les Israélites ont été jugés pour avoir méprisé leur rocher du salut caché, qui était présent, qui était présent même s'ils ne savaient pas que c'était lui, s'ils avaient été jugés, combien les Corinthiens seront-ils jugés pour avoir méprisé le rocher du salut révélé, Jésus-Christ? Nous sommes dans pèlerinage spirituel avec Jésus, en route vers la terre promise, la vie éternelle avec Jésus et son peuple. Nous sommes aussi dans un périlleux voyage dans le désert, confrontés des dangers, des tentations, dans un paysage païen dévasté. Comment allons-nous tenir? Nous faisons face aux mêmes tentations que les Israélites. Est-il possible de résister à ces tentations? Verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Si tu présumes que tu tiens debout, si tu es trop confiant par négligence, immunisé contre le pouvoir séducteur de la tentation et protégé contre la déchéance spirituelle, fais attention. C'est ce que Paul dit. Paul n'attaque pas l'assurance de la foi qui repose sur les promesses de Dieu, mais plutôt la confiance en soi non fondée qui a ses racines dans une influence tranquille au danger spirituel. Laissez-moi lire cela. Paul n'attaque pas l'assurance de la foi qui repose sur les promesses de Dieu, laissez-moi le répéter, mais plutôt la confiance en soi non fondée qui a ses racines dans une indifférence tranquille au danger spirituel. Certains de nos moments les plus vulnérables surviennent après des expériences spirituelles significatives. Certains de nos moments les plus vulnérables surviennent après des expériences spirituelles significatives. Pourquoi? Parce que nous pensons que nous sommes forts. Nous pensons que nous ne sommes pas vulnérables, alors la tentation survient de manière inattendue. Si nous pensons être forts commençons à jouer à la limite du comportement des divisions, de la promiscuité sexuelle, de la recherche de statut et de l'idolâtrie, nous devons faire attention. Devrions-nous désespérer? Non. Voici la bonne nouvelle, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Paul nous rappelle une très bonne nouvelle. Premièrement, ces tentations sont humaines. Le mensonge de l'ennemi te fait croire que c'est seulement toi. Elles ne sont pas uniques, elles sont partie de l'expérience humaine. Et Dieu sait cela, toi et moi. Rappelons-nous la définition de la tentation. C'est l'acte d'inciter, d'attirer, de séduire, de tirer ou d'attirer une personne à faire ce qui est mal ou mauvais. Une incitation qui fait appel à nos convoitises, à nos désirs. Dans le contexte de notre passage aujourd'hui, comme on l'a dit, Paul parle de séduction, des incitations qui s'abattent sur les gens du monde entier comme l'illusion, de l'idolâtrie, l'attrait à l'immoralité sexuelle, l'anxiété incontrôlable qui alimente notre impatience, la compulsion à murmurer. Ce qui est commun à tous les gens à travers le monde. Deuxièmement, Dieu est fidèle. On peut lui faire confiance toujours en toutes circonstances. Troisièmement, Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de notre capacité. Il est Dieu avec nous, présent pour nous permettre de résister à la tentation. Nous pouvons être tentés et ne pas pécher. Quatrièmement, en lien avec la tentation, Dieu fournit toujours un moyen d'en sortir. C'est une promesse. Nous n'avons pas besoin de succomber à la tentation, même lorsque nous faisons face à des situations accablantes. Nous ne devrions jamais penser que succomber à la tentation est la seule option. Cinquièmement, Dieu nous permettra de supporter, de tenir ferme sous la tentation. Parfois, la tentation est répétitive et continue. Je vous en dirai bientôt. Jésus sera toujours le rocher du salut, même si cela est répétitif. Il va nous sécuriser, il pourvoira, il va nous soutenir. C'est une parole d'assurance, de réconfort et d'espérance. Il y a espérance pour nous. Dieu est de notre côté. Si on fait confiance en Dieu, on ne va jamais nous retrouver dans une situation trop difficile pour que Dieu puisse nous soutenir ou nous donner la force de persévérer, d'endurer, d'être victorieux. La lutte spirituelle ne doit pas nécessairement se terminer par un échec spirituel. Ce n'est pas comme ça que ça devrait se passer. Alors comment vaincre la tentation? Parfois, comme j'ai dit plus tôt, la tentation semble vraiment accablante. Et des fois, les pensées sont compulsives et les émotions sont incontrôlables. Comment vaincre? Voici le chemin vers notre victoire spirituelle. Encore, la clé, c'est faire confiance en Jésus. C'est repentir. Pour être tombé dans un péché, Dieu demande à ce que vous puissiez vous repentir. C'est une action de confiance. 1 Jean 1, 8, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Jésus veut que nous puissions marcher dans la liberté. B, reconnaître les convoitises, les faiblesses et les vulnérabilités. Demander à l'Esprit Saint de t'aider à te comprendre. Pourquoi désires-tu faire que certaines choses derrière, pourquoi la convoitise? Pourquoi est-ce que tu murmures si facilement? C'est quoi qui a derrière ça? Nous avons des besoins quand nous avons besoin des besoins financiers, de la guérison physique, j'ai besoin de la guidance de Dieu, la bénédiction de ma famille. Et certains moments, malheureusement, nous ne faisons pas confiance à Jésus pour rencontrer nos besoins. Et on se retourne vers l'idole. L'immoralité sexuelle, nous avons tous des plaisirs et des besoins. Et des fois, on ne fait pas confiance à Jésus de nous satisfaire. Nous pensons qu'il ne peut pas le faire. Tester Christ, nous avons besoin de la provision et nous la voulons maintenant. Et on ne fait pas confiance à Jésus pour pouvoir au bon moment. Murmurer. Nous avons besoin que la vie suive notre chemin Et quand ça ne se passe pas de cette façon-là, nous pensons que nous avons le droit de murmurer. Nous ne faisons pas confiance à ce que Jésus puisse livrer. C'est retirer, reconnaître ses faiblesses. Et la suite, c'est retirer des moments, des lieux, des relations dangereuses. Quand, où et avec qui êtes-vous le plus vulnérable? Je pensais cela cet été, j'avais une certaine tentation alors que je pensais à cela. Et la répétition de la tentation, j'ai réalisé que ça venait à un certain moment de la journée, à un certain endroit. Et qu'est-ce que tu fais quand cela arrive, quand tu réalises cela? Reconnaître cela, ne reste plus à cet endroit et remplis ce moment avec une différente activité afin que tu ne sois pas attiré à ces tentations. Mettre des garde-fous. D. Redirigez vos pensées vers Christ. Lorsque les pensées sont accablantes, souvenez-vous que vous êtes un avec Christ. Il est présent avec vous pour vous fortifier, vous aider, vous. Encore pas plus. J'avais une tentation qui était répétitive et à un certain moment, et c'était si irrationnel, ça semblait comme une attaque spirituelle parce que ça revenait. Si je ne pouvais pas contrôler, qu'est-ce que tu fais? Le Seigneur m'a rappelé 2 Corinthiens 10, 4, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Qu'est-ce que je fais? Quand ces pensées venaient à moi, cette tentation particulière, je les rendais captifs à Christ. Ça s'est revenu, et quelques temps après, c'est parti. Voyez-vous, Jésus est le bon berger. Il est prêt, il est là pour nous guider. Il est dit, car lui-même a été tenté dans ce qu'il a souffert. Il peut nous secourir. Il est vraiment là pour nous aider. Souvenez-vous comment il a fait face à la tentation. Matthieu 4. Alors qu'il a fait la tentation, il a fait confiance à Dieu le Père. Il est un avec le Père et il est allé dans cette tentation remplie du Saint-Esprit après son baptême. Et il a coté la vérité de la parole de Dieu à l'ennemi. Jésus sait comment faire face à la tentation, il peut nous aider. D. Souvenez-vous de se rappeler de son identité en Christ. Vous pouvez prendre ce marque-page. Qui parle de cette vérité. Qu'est-ce qu'on doit se souvenir quand on fait face à la tentation? Premièrement, vous êtes une création nouvelle en Christ. Vous avez reçu un nouveau cœur, pardon. Vous avez été justifié. Deux, vous avez été justifié par la grâce, par la foi en Christ. Tu appartiens, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Quatre, il n'y a donc maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Jésus a pris tes péchés passés, présents et futurs sur lui-même. Des fois, tu penses que Jésus a pris seulement les péchés de ton passé, pas de futur et pas de présent. Il ne veut pas que vous vous vautriez dans la culpabilité et la honte. C'est là où l'ennemi veut nous garder. Rempli de honte et de culpabilité, pas capable de s'élever. Jésus a prévu une voie pour nous afin que nous puissions marcher dans la liberté et dans le pardon. Faisant ce que Dieu nous appelle à faire, Jésus nous enlève nos péchés. Psaume 103, il éloigne de nous les péchés, de toute transgression. Souvenez-vous que vous pouvez résister à l'ennemi et il va fuir. James, chapitre 4, vous avez l'autorité sur le méchant. C'est ça le don qui a été donné pour toi si tu es disciple de Jésus. F. Renouvelle tes pensées. Renouvelle ton esprit. Mémorise les Écritures. Les Écritures renouvellent ton esprit. Ça change tes désirs. Tes désirs. Tes aspirations. Jésus, donne-moi la voix. Il va renouveler ton esprit. Souvenez-vous, Jésus a coté les Écritures quand il a fait face à la tentation. Reconnectez-vous avec la communauté. Ne marchez pas seul. Ne marchez pas seul. Et soyez vulnérable. Souvenez-vous ce que Paul a écrit. La tentation, elle est commune à toutes les personnes à travers le monde. Chacun, toute personne qui respire, qui est vivante, des gens autour de nous, est tentée. On peut être vulnérable et partager ces choses qui nous tentent. Demander la prière, demander pour l'encouragement. Faire face, savoir ce qui se passe dans la vie des autres. Joignez-vous à un groupe. Un groupe avec les autres. Et l'adoration, enfin, l'adoration est la louange est une force. Jésus est présent pour te fortifier, pour tout pouvoir. Il va accomplir le travail de salut. Et c'est cela et sa promesse. Il va te présenter devant le Père sans tâche. C'est ce que Jésus va faire à cause de ce qu'il est. Tu peux faire confiance. Nous n'avons pas besoin d'imiter l'exemple des Israéliens dans le désert. C'est ça, Paul a écrit ce texte. On peut marcher dans la victoire. Et cela est vraiment une bonne nouvelle. Prions. Père, nous te remercions encore pour ta parole. Merci Jésus pour ton exemple. Merci Père et Fils d'avoir envoyé le Saint-Esprit pour demeurer en nous et nous donner la force de résister à la tentation. Merci parce que tu es présent pour nous donner la grâce dont nous avons besoin, savoir comment marcher dans la liberté. Et merci de nous avoir donné ce don de cette famille et cette église avec laquelle nous pouvons marcher, nous encourager, être honnêtes les uns envers les autres, prier les uns pour les autres et vivre ensemble, écrivant une histoire pour ta gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons mettre certains les points que j'ai soulignés et regarder à quelle étape vous êtes ou à qu'est-ce que vous pouvez mettre en pratique aujourd'hui, dans les jours qui viennent. Vous pouvez prendre la photo de ce qui va être projeté, un temps de réflexion et après le groupe de louanges va revenir pour prier, pour chanter. Il y aura les anciens qui vont venir ici au balcon pour un moment de prière.